Bonjour à tous, c'est votre animatrice Michèle Monette au micro. Il me fait plaisir de vous recevoir à nouveau cette semaine. Donc aujourd'hui, je reçois Magali Lefebvre de Carrefour Tiers-Monde, avec qui je m'entretiens de solidarité internationale. Je vous rappelle que Le Grain de Sable, c'est de la musique engagée. C'est votre magazine socio-économique. On parle de ce qui se passe ici, mais aussi d'ailleurs. Tout ceci est réalisé par le collectif radio des membres de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Attaque Québec. Avant de m'entretenir avec Magali Lefebvre, on va écouter ce qui suit. Ça sera pas bien long.
Des gens inspirants, j'en connais. Et vous?
On est 8 millions, faut se parler.
Bonjour, moi c'est François de Montréal.
Dis-moi comment tu t'insistes.
Je suis allé enseigner au Sénégal et j'ai beaucoup appris.
On est 8 millions.
Catherine de Sherbrooke.
De presque partout.
J'ai lutté contre l'avancée du désert au Mali.
Faut se parler.
Françoise.
Et Gilles de Gatineau.
Partout où on est allé,
on a vu des femmes.
Et des hommes qui savent travailler ensemble.
Pauline de Montréal, je m'engage pour que le handicap ne soit jamais une fatalité, au nord comme au sud.
Fernand de Chambly, j'arrive de Bolivie. Le microcrédit fait une grande différence là-bas.
France de Saint-Jérôme, je soutiens les paysans guatémaltèques dans la défense de leurs terres.
Moi, c'est Geneviève. Je vous invite aux Journées québécoises de la solidarité internationale. Faut se parler.
Faut se parler, Magali Lefebvre. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes agente d'éducation à Carrefour Tiers-Monde. Pourriez-vous nous expliquer ce que fait une agente d'éducation et dire un mot à nos auditeurs sur Carrefour Tiers-Monde?
Oui, certainement. En fait, agent d'éducation du public, finalement, c'est de sensibiliser les gens sur ce qui se passe. C'est quelqu'un qui aime parler avec les gens, qui aime se promener, qui a pas de difficulté à expliquer, finalement, les enjeux québécois, finalement, et internationaux. Et puis, c'est pas mal ça que je fais. En fait, je vais dans les écoles primaires, secondaires de la région de Québec et surtout dans les environs. J'aime beaucoup aller dans les régions, en fait, pour parler du droit des enfants dans les pays en développement et ici, évidemment. Donc, c'est un peu ça, commencer à parler aux jeunes dès un jeune âge, des différences finalement de l'international et puis de sensibiliser plus jeunes afin de faire une société plus conscientisée.
Oui, on en a bien besoin. Et Carrefour Tiers-Monde?
Oui, Carrefour, c'est un organisme qui existe depuis 69, donc ça fait 44 ans, si je me trompe pas, qui est un organisme à but non lucratif, évidemment, qui, justement, fait de la sensibilisation du public, qui fait des kiosques, qui organise ensemble. On a un peu un rassembleur avec tous les organismes de Québec pour faire des activités ensemble et pour faire des actions ensemble.
Oui, et vous avez aussi, vous êtes aussi associé à une auberge.
Oui,
au centre-ville.
Oui, exact.
Je passe souvent devant parce que je demeure dans le coin. Et c'est toujours un peu intriguant, cette auberge. Peut-être en parlant à dire un mot aux gens.
Mais oui, il faudra rentrer la prochaine fois.
Oui.
L'auberge L'Autre Jardin, ça a été la première auberge d'économie sociale à Québec. Donc, c'est un peu en raison du financement de l'organisme Carrefour Tiers-Monde qui a été coupé et puis ça a été mis sur pied pour finalement avec une partie des profits de l'auberge pour faire vivre l'organisme. Ça fait un bon moment depuis 95 que nous ne recevons plus de financement du gouvernement, donc il a fallu trouver une autre façon de survivre finalement et puis ça marche assez bien pour l'instant et puis l'auberge justement va dans les mêmes valeurs que les organismes de solidarité internationale. La nourriture est locale, bio et puis équitable finalement. Donc, on peut retrouver même les serviettes qui sont en coton bio. Ça rejoint les mêmes valeurs.
Alors, s'il y a des gens de Montréal ou d'ailleurs au Québec ou même d'ailleurs dans le monde qui nous écoutent, ben, c'est un endroit où on peut séjourner à Québec, l'auberge. Puis pour les gens de Québec, on peut y faire un tour, on peut aller voir la boutique. On va revenir sur la question du financement tantôt, une question que j'aimerais aborder avec vous, mais on va d'abord en venir au thème des Journées québécoises de solidarité internationale 2013. Faut se parler. Pourquoi ce thème et cette chanson qui rappelle une publicité célèbre au Québec?
Oui, comment ça fonctionne pour trouver les thèmes? C'est environ au mois de janvier, on se rassemble tous les coordonnateurs de l'événement, les Journées québécoises de solidarité internationale, et on doit trouver un thème. L'année dernière, c'était sur l'économie sociale. On essayait de trouver quelque chose de plus rassembleur, finalement. Quelque chose qui mettait en valeur le fait qu'il fallait discuter, qu'il fallait se parler de ce qui se passe avec, bon, le virage idéologique du gouvernement Harper, entre autres, et plein de choses, finalement. Et puis, on s'est souvenu de cette pub-là, Fausse Parler, qui était une publicité de bière de la BAT, finalement.
Beaucoup de Québécois s'en rappellent.
Oui, voilà. Puis c'est un public avec lequel on travaille un peu moins, je vous avouerais. C'est beaucoup des universitaires, des jeunes qui sont très, très impliqués. Puis, bon, il y a des gens de tous les âges, mais on voulait aller chercher un public, justement, peut-être plus nostalgique, ouais. D'une autre génération. Puis on s'est dit, ben, ça a vraiment fonctionné, il faut se parler. Puis en plus d'être accrocheur, ça porte notre message. Ouais. Donc, c'est la raison pour laquelle on a choisi ça.
Faut se parler. On peut se parler, justement, vous en avez fait allusion, on peut se parler de l'impact du virage idéologique du gouvernement Harper. Dans la brochure là, sur les journées québécoises de la solidarité internationale, je lis que le Canada est passé de première classe à mauvais élève en matière d'aide internationale. Ça se traduit comment, concrètement?
Oui, il faut pas oublier que le Québec a environ 50 ans d'expertise en matière d'aide internationale, donc c'est pas rien. Il y a beaucoup de gens avec de bonne expérience, de bonne expertise, puis on est en train de perdre ça finalement, bon, avec les coupures, mais le but des JQSC, c'est pas de parler nécessairement haut et fort des coupures, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de coupures dans plusieurs secteurs. Et puis le Canada, justement, il y a déjà eu une excellente réputation même pour sa neutralité, puis est reconnu en matière d'aide internationale. Et autrefois, le Canada a vraiment initié des super projets côté éducation, environnement et développement international. Par contre, c'est ça, on avait l'ACDI, l'Agence canadienne de développement international, qui autrefois, sa mission première était de lutter contre la pauvreté. Par contre, en juin dernier, l'ACDI a été fusionné au ministère des Affaires étrangères, qui n'a plus tout à fait les mêmes objectifs et la même vision de l'aide internationale. Donc, ça a été très, très transformé. Puis, au Québec, les organismes québécois, on n'est pas d'accord avec cette façon-là d'aider, finalement. L'aide va être décentralisée, axée sur un profit qui revient au Canada, qui est beaucoup moins centré sur le bien-être des êtres humains des pays du Sud, finalement. Puis, bon, on aime bien prendre l'exemple que le Canada, c'est un premier ministre canadien qui a été le premier à...
Oui, Lester B. Pearson, oui.
Oui, à initier le fait que 0,7% là, du PIB canadien devait justement servir à l'aide internationale. Ça a été adopté par les Nations Unies. D'autres pays ont gardé cet exemple-là, mais aujourd'hui, avec le gouvernement présent, Harper, on a moins de 0,3% qui est à l'aide internationale et c'est fait pour stimuler les entreprises finalement canadiennes. Donc, c'est pas du tout la même chose.
Ouais, je vais lire d'ailleurs un communiqué tout récent de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, là, la QOCI, on pourra parler d'ailleurs de cet organisme. Je lis là, l'extrait, cette situation est catastrophique pour 10 organisations canadiennes, dont 4 québécoises, qui se voient dans l'obligation de prendre des mesures qui auront de graves conséquences sur les populations du Sud. Ça vous touche moins, si j'ai bien compris, on s'en était parlé avant l'émission, mais il y a quand même quelques organismes d'ici, du Québec, qui sont carrément assez fortement touchés par ces mesures.
Oui, concrètement, c'est ça. Nous, Carrefour Tiers-Monde, on n'envoie pas de stagiaires ni de coopérants à l'international, donc ça nous touche un peu moins. Par contre, effectivement, il y a plusieurs coopérants, coopérantes qui vont être rapatriés au mois de janvier, si je me trompe pas, avant la fin de leur mandat, parce que le financement n'a pas été réaccordé. Donc, effectivement, il y a plus de financement pour la continuité des projets. Oui, c'est des projets. Par contre, c'est la vie des êtres humains qui est en jeu. C'est des centaines et milliers de femmes et d'enfants et de communautés qui sont supportées depuis, comme je disais plus tôt, là, plusieurs années.
Oui, qu'on va laisser tomber du jour au lendemain. C'est triste.
C'est des partenariats qui sont très, très solides, finalement. Puis, il y a aussi l'autre côté. On appelait ça les PSIJ, en bon jargon d'acronyme. C'est les programmes...
Vous allez nous expliquer, oui.
Programmes jeunesse internationaux. Ça donnait la possibilité à des jeunes entre 18 et 30 ans ou 35 ans de partir dans leur domaine, faire un stage de 6 mois. Donc, présentement, c'est la dernière année qui se produit. J'étais justement au Rwanda l'été dernier. Il y a 5 jeunes Québécoises qui faisaient un stage soit en travail social ou en gestion de projet qui allaient là-bas. Mais ça donnait une belle expertise pour ces jeunes filles-là qui finissent l'université et tout. Mais là, tout le financement est coupé. Donc, ça touche aussi d'autres secteurs, finalement.
Ouais, c'est malheureux parce que ça sensibilisait aussi quand même bon nombre de jeunes aux réalités telles que vécues sur le terrain là-bas. Quand ils revenaient au Québec, ben, ils pouvaient en parler autour d'eux et bon, enfin. Si on s'attardait maintenant, on va regarder du côté du Québec avant. Je voulais en venir à la programmation, mais des journées québécoises. Mais je voudrais qu'on parle de la création d'une agence de solidarité internationale québécoise. Ça avait été annoncé par le ministre Lisée, il me semble. Et vous êtes fortement en faveur de ça, si je comprends bien.
Oui, certainement, mais l'agence est toujours en consultation. D'ailleurs, la COSI puis va venir à Québec mardi prochain pour faire une consultation avec les gens dans le domaine et le public, finalement, pour savoir qu'est-ce que serait l'Agence québécoise de solidarité internationale de rêve, finalement, pour qu'elle soit vraiment l'image du Québec, puisque justement, on se reconnaît plus dans la politique fédérale. Et puis, c'est ça, le mandat et ses grandes lignes sortiront en décembre. Ça a été initié, ça fait un moment, ça se discute, c'est en train d'être peaufiné. Et puis, l'ACSI, finalement, permettrait de remplacer plus ou moins l'ACDI, finalement, qui a transformé sa notion d'aide internationale, puis qui est étroitement lié à la stratégie d'économie. Et puis, c'est ça, pour nous, ça serait vraiment de mettre le Québec sur la map, si on peut dire, finalement, puis travailler plus ensemble, parce qu'on le fait beaucoup en tant qu'organisme pendant les JQSI, les Journées québécoises de solidarité internationale, mais à longueur d'année, on travaille tellement fort sur des choses, chacun dans notre coin, que là, c'est le temps de se mettre ensemble puis de montrer ce qu'on veut, finalement.
Oui.
Puis, c'est ça. On veut vraiment montrer que l'aide qu'on veut apporter, nous, comme Québécois, c'est fondé sur le respect, sur l'équité, et puis que ça n'a pas de vertu économique. Donc, en tout cas, on entend souvent parler, là, le Canada, qui, pour chaque dollar canadien dépensé, il faut qu'il y ait un dollar qui revienne au Canada.
C'est pas juste le Canada. C'est pour avoir un peu fouillé la question. La plupart des pays, malheureusement, agissent comme ça. Ils veulent avoir un retour économique. Le temps file.
Oui, vas-y.
Ce serait bien de parler de la programmation de cette année, peut-être en mettant un peu plus l'accent sur la région de Québec, mais c'est quand même à travers le Québec, ces journées.
Oui, exact. C'est dans 11 régions.
De quelle date pardon?
C'est le 6 au 16 novembre prochain. Et puis, c'est ça, c'est partout au Québec. Et puis, il y a de tout. Il y a un festival de films engagés, par exemple, qui s'appelle Alimentaire, T-E-R-R-E, comme la Terre, finalement, qui est organisé par l'Université Laval. Par exemple, on a des films, la question de l'agriculture après le séisme en Haïti, qu'est-ce qui se passe? Donc, voilà ce que je veux dire par film engagé.
Oui.
Des panels de discussion sur la question des femmes et de le développement dans les pays du Sud. Il y a des conférences, il y a des rassemblements, des journées familiales, finalement. Donc, il y a un peu de tout. C'est toutes des activités qui sont gratuites et qui sont en lien avec plusieurs thèmes, la justice sociale, l'environnement, l'égalité femmes-hommes, l'économie locale, etc.
OK. Est-ce que c'est beaucoup à l'Université Laval ou c'est un peu partout sur le territoire de la région de Québec?
C'est partout. On est à Beauport, on est en Basse-Ville, on est à l'université. Chaque événement est à un endroit différent. Ça dépend vraiment de l'événement en tant que tel.
J'imagine que la programmation est disponible sur Internet. Là, on a vraiment effleuré tout ça, mais si les gens veulent vraiment aller se dire « Ah, ben ça m'intéresse, j'aimerais ça trouver une activité qui me parlerait plus qu'une autre », il y a une adresse où ils peuvent se rendre et avoir tout ça?
Oui, certainement, sur le site des JQSI, donc www.jqsi.qc.ca, dans le volet « Programmation » et Québec, mais si vous êtes d'une autre région, finalement, il y a plusieurs régions qui sont là. J'ai mis la programmation cette semaine, elle est à jour, tous les événements sont là, donc il suffit de venir, de mettre ça à l'agenda.
Bien, merci beaucoup, Magali Lefebvre. Merci de votre passage dans les studios CKRL. Souhaitons-nous de belles journées québécoises de la solidarité internationale et souhaitons qu'on trouve aussi moyen de renverser la vapeur et de fournir aux organismes l'aide dont ils ont besoin pour aider les gens à travers le monde. Je répète donc les dates des journées québécoises de solidarité internationale. C'est du 6 au 16 novembre prochain. La programmation est disponible à l'adresse que Magali nous a donnée tantôt. www.jqsi.qc.ca. Merci.
Merci.
Et à l'an prochain, peut-être.
Oui, peut-être.
Au revoir. On va écouter une chanson et on revient pour la suite.
Burkina Bé, Mauritanie, Sénégalais, Guinée, Ghana.
C'était Amadou et Mariam La Paix. On a bien besoin de la paix et on a surtout besoin de soutenir des initiatives telles Carrefour, Tiers-Monde et plein d'autres organismes qui vont donc à partir du 6 novembre nous parler de ce qu'ils font un peu partout à travers le monde, nous sensibiliser au fait que ben il faut pas cesser de soutenir le développement international. Au contraire, on a vraiment besoin de soutenir le développement international un peu partout à travers le monde. Bon, on sait ce qui s'est produit. Il y a eu les coupures, il y a eu la crise de 2008, il y a eu les coupures un peu partout. On a abondamment financé les banques, les institutions financières pour qu'elles ne tombent pas. Et maintenant qu'on a besoin finalement de ces institutions, qu'on a besoin d'argent, qu'on a besoin d'organismes pour soutenir le développement à travers le monde, on laisse tomber. C'est quand même incroyable, parce que dans le cas des banques, c'était des milliards de dollars qu'on a donné pour soutenir le développement international, alors que dans le cas finalement des organismes d'aide internationale, on parle pas de milliards de dollars, là, on parle plutôt de centaines de milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers. Ce sont des sommes finalement qui ne sont pas si énormes que ça et qui donnent un bon coup de main aux organismes internationaux. Voilà, donc dans la deuxième partie de l'émission, je vais m'entretenir avec Catherine Caron. Catherine qui est membre du conseil d'administration d'Attaque Québec, mais qui est aussi directrice adjointe de la revue Relations, et qui va nous parler du dossier central politique municipale. Et c'est une question qui nous interpelle tous, évidemment. On est à une semaine là, de voter. Certains même ont peut-être déjà voté par anticipation. Mais je voulais quand même, moi, prendre le temps. Il reste pas beaucoup de temps, mais prendre le temps avant la publicité de la demi-heure pour vous parler d'un autre article dans la revue Relations, parce que ça va me permettre de vous dire que la semaine prochaine nous aurons un invité de l'IRIS qui va nous entretenir d'Hydro-Québec. Philippe Schaeffer. Philippe va nous parler finalement de l'Hydro-Québec. Est-ce que c'est un bien public, l'hydroélectricité, ou c'est une vache à lait pour le gouvernement? Mais je vais attirer votre attention sur un article qui s'appelle Hydro-Québec, une mission détournée. C'est Marc-Olivier Moisan-Plante qui fait cet article où ça dit qu'un bref retour historique éclaire la dérive de notre société d'État et le caractère inacceptable des hausses de tarifs d'électricité qu'on cherche à nous imposer cette année. On sait qu'il y a beaucoup de... Il y a d'ailleurs une manifestation, je vais en parler tantôt quand on va voir ce qui est à surveiller cette semaine. Il y a une manifestation cette semaine justement contre la hausse d'électricité. Juste lire le début de l'article de Marc-Olivier Moisan-Plante. « Jadis perçu comme un symbole de réussite et d'affranchissement de la société québécoise, garante de l'accessibilité d'un service public essentiel, Hydro-Québec est devenu, aux yeux de plusieurs, un véhicule de taxation et de financement de l'État québécois. Alors que la réglementation des tarifs d'électricité s'avère des plus opaques pour le profane, un sentiment d'iniquité et d'impuissance s'installe chez les usagers. » Ça, c'est donc dans la revue Relations numéro 768, le numéro de novembre 2013. Et au retour de la pause publicitaire, je m'entretiens avec Catherine Caron, qui est directrice adjointe de la revue Relations, à propos du numéro du dossier central de la revue sur la politique municipale. À tantôt.
Est-il dans la nature de l'amour, qu'il soit l'amour de quelque chose ou de rien? 89.1. L'amour n'est-il pas l'amour de la beauté et non de la laideur?
CKRL.
Si l'amour manque de beauté, et si la beauté est inséparable de la bonté, il manque aussi de bonté. L'amour désire-t-il ou non l'objet dont il est amour?
These things will be until
Le Cercle fête ses 6 ans le 8 novembre prochain. Dès 18h, vivez l'expérience du Cercle avec les créations de plus d'une trentaine d'artistes et collaborateurs. Sentez-vous transporté par un amalgame de projections, danses, d'installations sonores et par les spectacles de Rich au coin, à la Claire Ensemble et de plusieurs DJ. Toutes les infos et concours pour gagner un laissez-passer sur 6ans.ca.
Le Chicho Café et l'Opineur du Chef, une symphonie de saveurs gourmandes et musicales. Un accord mets son incomparable pour le plaisir de vos papilles et de vos oreilles. Le Chicho Café vous présente l'Opineur du Chef, animé par Denis Barry, une fusion de psychédélique, de pré- et post-Woodstock. Bien implanté dans l'espace culturel de Québec, le Chicho Café vous propose une fine cuisine italienne assaisonnée d'une musique aux notes décontractées. L'Opineur du Chef, les jeudis à 20h, seulement au 89.1.
L'Amicale des arracheuses et arracheurs de dents de Québec, organisme reconnu par l'ONU, vous présente son concours de menterie. Des conteuses et des conteurs de toute la galaxie tenteront de convaincre des juges de renommée mondiale que leurs histoires sont vraies. Le concours n'est pas ouvert aux professionnels du mensonge. Dentiste?
Ça fera pas mal.
Vendeur itinérant?
C'est fait au Québec.
Banquier?
Vous êtes important pour nous.
Politicien? Avocat.
Mon client, M. Marco, est un homme respectable.
Le samedi 9 novembre à 14h au bar Le Sacrilège, 447 rue Saint-Jean.
Vous écoutez CKRL 89.1 à Québec.
Nous sommes de retour, c'est l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec et donc cette semaine, en deuxième partie d'émission, je m'entretiens avec Catherine Caron. Je m'excuse. Catherine, donc, qui est rédactrice en chef de la adjointe de la revue Relations. Je vais tenter de la voir. J'ai un petit peu de difficulté là avec la console. Je ne sais pas ce qui se passe. Catherine, est-ce que vous m'entendez?
Oui, mais c'est pas très fort.
Oui, on peut s'entendre. Il y a un petit pépin avec la console, mais au moins on s'entend. Vous m'entendez bien?
Oui.
Ça
oui.
va. Donc, on a... je rappelle à nos auditeurs que vous êtes aussi membre du conseil d'administration d'Attaque Québec, mais c'est à titre de rédactrice adjointe, de la revue Relations qu'on se parle cette semaine, vous et moi. Il a fait un numéro spécial sur la politique municipale. Ça tombe bien, à une semaine des élections municipales. Dans ce numéro, d'entrée de jeu, vous parlez de rupture du lien, de rupture du contrat social unissant les citoyens et leurs élus municipaux. C'est l'angle que vous avez choisi pour ce dossier spécial sur la politique municipale. Pourquoi cet angle?
Ça nous est venu vraiment de l'analyse là, du contexte de crise concernant évidemment les affaires de collusion et de corruption à différents endroits. C'est aussi un contexte de mobilisation dans plusieurs villes du Québec où on voit des citoyens mécontents de leurs élus dans différents dossiers, souvent reliés, pensons au gaz de schiste, au développement éolien, au développement minier. Il y a souvent des problèmes à différents endroits et ça implique les élus locaux. Alors on est parti de ça pour... ça a été notre point de départ là, pour réfléchir à la situation et aussi proposer des pistes de solutions pour que la démocratie municipale se transforme là, au Québec.
Dans l'introduction du dossier, vous faites le lien avec l'emprise idéologique du néolibéralisme. Peut-être pourriez-vous élaborer davantage, surtout à la lumière de l'entente récente de principes qui devrait mener à l'adoption par Québec et Ottawa là, du traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada?
Oui, c'est ça. Mais pour nous, ça nous apparaît évident que le néolibéralisme dans nos villes est présent. Ça se manifeste de différentes façons que je détaille un petit peu dans mon texte. Puis je mentionne justement qu'un traité comme celui avec l'Union européenne, ça peut affaiblir le pouvoir de nos municipalités d'orienter leur développement local comme elles l'entendent. Par exemple, elles pourront plus, dans le cas de grands contrats publics, favoriser soit une entreprise locale ou imposer des mesures qui favorisent localement l'emploi, par exemple, ou des mesures environnementales peut-être aussi. Donc, elles vont perdre une marge de manœuvre là-dedans qu'on n'a pas choisie là, démocratiquement. Puis en plus, elles risquent aussi de s'attirer les foudres d'entreprises qui pourraient intenter des poursuites pour des décisions municipales qui ne leur plairaient pas et qui nuiraient à leur capacité de faire des profits. Mmh. Alors, c'est quelque chose de vraiment préoccupant, de très néolibéral qui va s'accentuer dans nos villes. Et sous cet angle-là, il y a aussi Guy Dufresne qui signe un article, qui est professeur à l'UQAM et qui, lui, nous parle davantage de toute cette attitude qu'on a depuis plusieurs années de traiter les citoyens en clients des villes. Et les villes sont un peu comme des entreprises qui auraient des clients. Et que cette tendance-là, ça réduit le politique à une affaire de gestion et de compte de taxes, alors que c'est pas ça du tout. On est des citoyens qui devons être impliqués dans des décisions collectives et politiques dont on est partie prenante. Alors, il nous parle beaucoup de la dépolitisation que ce processus-là entraîne, et c'est aussi une marque du néolibéralisme que de tout réduire à une affaire d'entreprise et de client.
Ouais, c'est très intéressant, d'ailleurs, l'article de Guy Dufresne. Bon, tout juste avant, vous avez débuté le dossier par un article sur la relative autonomie des municipalités.
Mm-hmm.
Puis, bon, on voit, là, il y a d'abord la question davantage de la structure comme telle, puis ensuite, on va vers plus les gens dans la structure. C'est intéressant, mais vous avez débuté, pourquoi avoir débuté par cette question de l'autonomie des municipalités?
Oui, ça nous semblait aussi fondamental de mieux comprendre nos municipalités, c'est-à-dire leur statut, leur degré d'autonomie, leur financement. Alors, c'est Pierre J. Hamel qui nous a fait ce texte-là pour mieux nous expliquer tout ça. Et c'est très intéressant parce qu'il fait un comparatif avec d'autres pays où les municipalités, parfois, ont beaucoup plus de pouvoir, où elles contrôlent davantage une proportion plus importante des dépenses publiques. Alors, c'est vraiment intéressant. Ça peut nous donner des pistes d'inspiration aussi.
Ouais.
Puis à travers ça, on comprend que la dépendance des municipalités à l'impôt foncier, notamment, entraîne toutes sortes de dérives et que cette situation-là favorise, en fait, là, les tentatives de collusion et de corruption. Son
ouais.
texte est très éclairant là, pour comprendre.
Oui, tout à fait, parce qu'il parle de contrôles gouvernementaux resserrés, mais c'est ça qui est paradoxal, c'est que d'un côté, les contrôles gouvernementaux sont resserrés et de l'autre, il y a comme tout un espace pour la corruption.
Oui.
Enfin, il y a eu. Ensuite, on est sur la question des partis municipaux. On sait que c'est un peu controversé, cette question-là. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Et la question, c'est à quoi servent les partis politiques municipaux?
Oui, ça, on a posé la question à Sandra Bru, qui, elle, pense que les partis politiques sont importants au niveau municipal. Ils sont pas très nombreux au Québec. Alors, elle s'est chargée de nous présenter un peu la situation et le rôle des partis politiques. Ils jouent un rôle important parce que les municipalités prennent des décisions politiques. C'est pas des entités qui font seulement de l'administration, là, comme on aime bien nous faire croire, ou qui nous livrent des services, tout simplement. Alors, elle nous explique ça, puis elle nous dit aussi qu'à ses yeux, toute cette crise des affaires de corruption, ça a remis en question le rôle des partis politiques sur la scène municipale, mais que pour elle, il ne s'agit pas de remettre en question leur existence, mais plutôt leur nature, leur fonctionnement et leur financement. C'est ça qu'il faut revoir, mais que c'est important d'avoir des partis politiques pour que la vie municipale et la démocratie municipale se fassent du sens et soient structurées d'une manière où le citoyen va pouvoir comprendre les enjeux à travers le travail des partis politiques.
Il y a un article aussi sur le rôle des élus locaux. Ça, c'est peut-être que les futurs élus devraient le lire.
Oui. Oui, celui-là est pas mal intéressant.
Ouais.
C'est Yann Fournis et Marie-Josée Fortin de l'Université de Rimouski qui nous parlent de l'affaire Gaspé, de la ville de Gaspé qui s'est opposée à la pétrolière Petrolia. Et pour nous faire comprendre que c'est un cas modèle, un exemple à suivre d'élus qui revendiquent finalement le respect de leur souveraineté sur leur territoire et sur leurs ressources, que c'est possible de faire ça et que c'est possible que les municipalités affirment là, leur désir d'exercer leur pouvoir finalement et d'encadrer des grandes industries dans les domaines pétroliers, miniers, etc. Alors c'est un beau modèle Et ça c'est important, je pense que leur message, c'est que c'est important de valoriser le rôle des élus locaux. Ouais. Hein. On le sait que toutes ces affaires-là, ça mine un peu le portrait général, ça discrédite, c'est pas très beau à voir, mais à travers, il y a des exemples inspirants dont on parle dans le numéro. Et il y a un rôle réel que les élus locaux peuvent jouer.
Oui, tout à fait. Il y a un article particulier sur Montréal. Bon, on comprend, Montréal, c'est quand même de loin la plus grosse municipalité au Québec. Un chantier pour la gauche.
Oui, Anne Latendresse, qui est bien connue pour ses écrits sur le néolibéralisme et les villes. C'est ça, elle se penche sur le cas de Montréal et dans une perspective de gauche, elle nous parle de la nécessité d'une alliance de la gauche autour des enjeux urbains locaux. Elle nous fait un petit survol des différentes initiatives du passé qui nous conduit jusqu'à aujourd'hui et elle insiste sur elle nous explique que le meilleur garde-fou là, contre les tentatives de corruption et de collusion, c'est la présence active des citoyens et des organismes de la société civile auprès des élus et des fonctionnaires et qu'il faut créer les espaces pour que cette interaction-là soit possible. Alors, c'est un article fort inspirant, mais tout un chantier. Le titre, c'est « Un chantier pour la gauche ». Effectivement, il y a beaucoup de travail à faire à Montréal et à Québec aussi, j'imagine.
Oui, tout à fait. Enfin, on n'entrera pas dans les détails. Vous terminez le dossier par la question de la presse régionale, une entrevue avec Marc Simard du Mouton Noir. C'est un peu aussi un rappel que ben ça prend des citoyens informés pour finalement que les municipalités soient vraiment au service des citoyens, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça. Marc Simard nous explique évidemment l'importance de l'existence d'une presse libre et indépendante. On sait tous qu'il y a un important phénomène de concentration de la presse au Québec et que ça nuit à la qualité de l'information et qu'il y a un manque d'information dans les régions. Alors évidemment, il nous présente un peu comment le Mouton Noir s'applique à faire un travail qui aide les citoyens à s'impliquer dans leur municipalité. Et il explique aussi comment eux, ils conçoivent leur rôle. Ils essaient de faire des liens, en fait, entre ce qui se passe à Rimouski et les grands enjeux politiques sur la scène provinciale ou nationale.
Ouais.
Alors, c'est une belle entrevue.
Ouais, ce qui est malheureux, c'est que, hélas, de plus en plus, la presse régionale est sous le contrôle des grands conglomérats médiatiques. Donc, on a de moins en moins de médias comme le Mouton Noir. On en a bien besoin.
Oui.
Hélas. Ben, Catherine Caron, merci beaucoup. Je peux pas m'empêcher faire autrement que de terminer notre entretien en parlant d'Attaque Québec. Mm-hmm. Vous êtes quand même membre du conseil d'administration d'Attaque Québec et il y a l'Assemblée générale qui s'en vient bientôt. Peut-être en dire un petit mot?
Oui, j'étais justement là-dedans en train de faire la lettre de convocation.
Bon, voilà.
Oui. C'est l'Assemblée générale d'une association citoyenne, c'est toujours très important. On invite les gens de Québec à se déplacer vers Montréal le 23 novembre prochain. On va peut-être essayer de faire en sorte qu'il y ait une participation par Internet possible, mais c'est pas toujours si évident que ça là, à réaliser.
Ouais.
Surtout, bon, il y a des votes et différentes choses dans une assemblée.
Ouais.
Je suis pas sûre qu'on va franchir cette barrière technologique cette année.
Bon.
Mais ce qui va être amusant, c'est qu'on va joindre le plaisir, l'utile à l'agréable, pardon, en invitant Léopold Lauzon.
Oh, ça va être bon, ça.
On attend toujours sa confirmation, mais on espère vraiment qu'il va être avec nous. C'est un allié de nos luttes contre le néolibéralisme et les paradis fiscaux, notamment. Alors, on l'a invité pour... On a pris l'habitude comme ça d'inviter quelqu'un à participer ou à faire un peu une conférence ou dans son cas, ça va être un peu plus humoristique cette année.
Ouais.
Et puis ensuite, on tient notre assemblée générale. Tant qu'on est vraiment dans un processus assez dynamique, on fait beaucoup de choses et on a le goût d'en faire encore plus. Alors, cette assemblée-là est importante pour venir prendre connaissance de tout ça puis venir appuyer activement les membres actifs là, qui portent les différents projets.
Oui, et peut-être éventuellement, qui sait, avoir le goût de s'impliquer, de s'engager, donner un coup de main, effectivement. Je m'en veux parce que je voulais glisser un mot sur la revue Relations. C'est une revue que j'aime beaucoup lire chaque mois. C'est une revue quand même qui existe depuis un bon petit bout de temps, Relations.
Oui, Relations, c'est pratiquement une institution au Québec. C'est une des revues les plus anciennes avec l'Action nationale.
Ouais.
Entre autres, C'est une revue qui a été fondée par les Jésuites il y a donc plus de 70 ans. Et c'est une revue d'analyse sociale. C'est ça, c'est comme ça qu'on la présente. C'est pas une revue d'idées ou d'opinions comme telle. On fait de l'analyse sociale avec des chercheurs, des acteurs du mouvement social qui ont une capacité d'analyse et ou des travaux de recherche à faire connaître, mais toujours en vulgarisant et en faisant un pont finalement entre le monde académique et le grand public intéressé par les grands enjeux de société.
Oui. Et c'est chaque fois des numéros fort intéressants, effectivement, qui nous permettent de comprendre certains phénomènes économiques, sociaux, et puis peut-être, qui sait, de s'engager davantage comme citoyenne, comme citoyen.
Oui, c'est ça.
Il y a les soirées relations aussi, là. Il y en a à Québec, il y en a à Montréal. C'est comme une suite, si on veut, un prolongement de la revue.
C'est ça, oui. C'est ça, les soirées sont organisées par le Centre Justice et Foi, qui est un centre d'analyse sociale, le centre d'analyse sociale qui publie Relations.
Oui.
Y en a deux à venir, en fait, qui vont être assez intéressants sur le thème du christianisme social au Québec.
Mm-hmm.
On se rend pas toujours compte à quel point les chrétiens de gauche engagés ont joué un rôle dans notre histoire, ils ont joué un rôle dans la Révolution tranquille.
Tout à fait.
Et ils sont présents aujourd'hui dans toutes sortes de luttes pour la justice sociale. Alors, on a passé une soirée où on a invité des jeunes trentenaires, donc des gens de 30 ans, qui vont nous parler de comment ils s'approprient cet héritage-là et quels sont les défis auxquels ils font face actuellement dans le Québec d'aujourd'hui, finalement.
Mmh.
Alors, ça va avoir lieu à Québec le 20 novembre à 19h au Centre Montmartre, qui est d'ailleurs partenaire de la soirée. Et c'est avec Patrice Bergeron, Amélie Deschenoguet, et un troisième invité secret dont j'ai pas encore le nom. Tous les détails sont toujours sur le site à l'adresse cjf.qc.ca. Mm-hmm. Et juste avant, le lundi 18 novembre, la même soirée va se tenir, mais avec d'autres panélistes. Ça va être Ariane Collin, Catherine Foisy et Alfonso Ibarra.
Ouais.
Alors, je pense que ça va être intéressant dans le contexte de la Charte des valeurs de venir entendre ces jeunes-là, puis de voir qu'il n'y a pas juste il n'y a pas juste des mouvements religieux de droite là, dans la société. Il y a des chrétiens engagés de gauche et qu'on gagne à mieux les connaître.
Tout à fait. Mais Catherine Caron, merci beaucoup de cet entretien. J'invite nos auditeurs à se procurer la revue Relations. On peut la trouver un peu partout, j'imagine.
Oui, elle est en kiosque Relations. Ou sinon, vous la demandez à votre libraire ou à votre kiosquier, il peut la commander. Et je vais juste glisser un petit mot aussi.
Oui.
Les gens qui aiment Relations, vos auditeurs qui ont des amis à Montréal, on fait une soirée bénéfice cette semaine à Montréal, le 30 octobre, à la salle du Jésus avec la chanteuse Claire Pelletier. Alors, okay. Si il y a des auditeurs, des amis, tout ça, si vous aimez la revue, si vous voulez la soutenir le Centre Justice et Foi qui réalise les soirées Relations et qui est aussi vraiment un pôle où on développe une analyse, mais aussi on favorise le débat public et une citoyenneté active, là, en parlant justement de démocratie. C'est cette semaine, 30 octobre.
Bien, j'invite les gens qui sont à Montréal, qui nous écoutent ou qui ont des amis à Montréal, peut-être à l'indiquer, à signaler à leurs amis et à se rendre à cette soirée. Merci beaucoup, Catherine Caron.
Merci beaucoup, Michel. À bientôt.
À la prochaine. Au revoir. Voilà, donc c'était Catherine Caron, qui est au conseil d'administration d'Attaque Québec, mais qui est aussi directrice adjointe à la revue Relations, une revue, je l'ai dit tantôt, mais je le répète, c'est une revue que je lis régulièrement avec beaucoup d'intérêt. On s'en va à une petite écoute musicale et je vous reviens par la suite avec ce qui est à surveiller cette semaine dans la région de Québec. C'était Richard Desjardins, un chanteur engagé, s'il en est un, Boom Rock Café, dans l'album, la compilation Au Club Soda. Nous en sommes maintenant aux événements à surveiller cette semaine. Ça, c'est grâce au calendrier média de la démocratie en action. C'est produit par le réseau du Forum social de Québec Chaudière-Appalaches. On commence par un souper bénéfice pour AVES, Solidarité internationale. C'est le 15e anniversaire d'AVES. Le 26 octobre à 18h, c'est au 390 rue Arago-Ouest à Québec. AVES, c'est une mission, ça donne comme mission de contribuer à l'avancement de l'éducation du public à propos des différences culturelles. On en a bien besoin ces temps-ci, du commerce équitable et des multiples facettes de la pauvreté, en offrant des activités de formation, notamment des ateliers thématiques, ainsi qu'en organisant et effectuant des stages éducatifs à l'étranger. Pour nous, la notion de vivre ensemble est importante et prend toute son ampleur à travers les relations intergénérationnelles et une interculture afin de construire un monde d'entraide et de partage. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Donc, on peut assister à cette soirée. C'est au 390 rue Arago-Ouest, je l'ai dit, le 26 octobre à 18h. Pour le droit de manifester à Québec, ça, c'est contre la loi. On dit contre la loi Labeaume, contre la loi de la ville, le règlement municipal qui interdit de manifester. Le 27 octobre à 13h, place du Ville à Québec. C'est une manifestation qui se veut familiale et ouverte à tous et à toutes. Alors, c'est la ville de Québec, évidemment, qui est visée par cette manifestation-là. Les organisateurs réclament le droit de manifester librement, sans l'obligation de devoir demander un permis ou fournir un projet aux forces policières. On proteste aussi contre le couvre-feu. Alors, donc à la place du Hôpital, la manifestation va se déplacer vers l'hôtel de ville, puis l'Assemblée nationale. C'est organisé par le collectif Subversité. Concours de citrouilles, on est dans la thématique de l'Halloween. Concours de citrouilles contre la hausse des tarifs d'électricité, j'en parlais tantôt. 28 octobre à midi, c'est devant les bureaux d'Agnès Maltais, la députée Agnès Maltais, ça, c'est devant la bibliothèque Gabriel Roy, en fait, pour ceux qui seraient pas trop tôt, sont les députés, les bureaux de la députée Agnès Maltais, députée de Taschereau. Avec la hausse de plus de 7%, on va devoir s'éclairer aux chandelles dans des citrouilles, disent les gens qui organisent la manifestation. Il y a eu une manifestation nationale le 28 septembre dernier et la Coalition pour la justice sociale nous invite cette fois-ci à profiter du 28 octobre pour manifester notre refus de la hausse des tarifs d'électricité. Je rappelle que la semaine prochaine, on va recevoir Bertrand Schaeffer. J'ai dit Schaeffer tantôt, c'est Schaeffer, je m'excuse auprès de lui. Le chercheur Bertrand Schaeffer de l'IRIS, avec qui on va justement se demander si l'hydroélectricité est un service public ou une vache à lait. Et si la beauté pouvait sauver le monde? Qu'en dites-vous, chers auditeurs? C'est une soirée qui a lieu au Studio P le 29 octobre 19h30 avec Robert Jasmin. Robert Jasmin, que nos auditeurs connaissent bien parce qu'il a une chronique mensuelle sur les États-Unis. Il est aussi auteur du livre Le Temps d'Alexandre. Parce qu'il y a des idées de génie cachées entre nous, ces rencontres peuvent offrir un espace de parole pour les faire émerger au grand jour. Aucune censure. Toutes les idées sont les bienvenues. Surtout les plus folles, car ce sont aussi les plus belles. C'est fort prometteur, n'est-ce pas, comme soirée. C'est le 29 octobre à 19h30 au Studio P 280 rue Saint-Joseph-Est à Québec. Pour ceux qui ne sauraient pas trop, c'est où? C'est tout près de la rue Dorchester. Il y a un magasin d'alimentation, il y a aussi une librairie là, que vous allez pouvoir vous repérer. Défilé de la Grande Citrouille, ça c'est organisé le 31 octobre à 15h15. Défilé de la Grande Citrouille, donc, c'est organisé par l'Engrenage du quartier Saint-Roch. C'est au Parc de la Jeunesse, à côté de l'École des Berges. Ça, c'est dans Saint-Roch, au 510, plus précisément, rue du Prince-Édouard à Québec. Ça va être la 8e édition de la fête d'Halloween dans Saint-Roch, organisée par l'Engrenage. Plusieurs organismes et citoyennes et citoyens du quartier. L'animation débute à 15h15, au Parc de la Jeunesse, à côté de l'École primaire à des berges sur le Prince-Édouard. Le départ du défilé costumé se fera de l'école autour de 16h15. Gardez l'œil ouvert, peut-être verrez-vous l'équipage de pirates ayant volé le trésor de la grande citrouille. La fête se termine avec un souper communautaire dans le gymnase de l'école. Voilà donc pour les activités à surveiller cette semaine. On peut voir toutes ces activités sur le site, sur le calendrier, l'agenda, le calendrier immédiat de la démocratie en action. Ça, c'est au www.réseauforum en un seul mot et au singulier, réseauforum.org, /grille, trait d'union, calendrier, grille, calendrier au singulier aussi. Donc, vous pouvez vous rendre et vous verrez donc plus de détails sur les activités que j'ai mentionnées, mais aussi sur d'autres activités qui se déroulent, principalement dans la région de Québec, mais aussi ailleurs au Québec. Merci à nos deux invités de cette semaine, Magali Lefebvre, agente d'éducation à Carrefour Tiers-Monde, avec qui on a pu échanger sur les Journées québécoises de solidarité internationale, qui débutent à compter du 6 novembre partout à travers le Québec, non seulement dans la région de Québec, .jqse.org, si vous voulez avoir l'information, mais on va mettre ces informations-là sur notre blog. Merci à Catherine Caron de la revue Relations, avec qui on s'est entretenu d'un dossier du numéro de la revue qui vient de paraître et qu'il faut lire. Je vous invite à lire à quelques jours des élections municipales, politiques municipales, sortir du cul-de-sac. Je vous rappelle que les enregistrements de l'émission sont disponibles sur le site de CKRL 89.1. Vous cherchez dans la programmation le nom de notre émission, Le Grain de Sable d'Attaque Québec, et vous aurez de là accès à la page où sont archivés les derniers enregistrements. Ils sont aussi disponibles, ces enregistrements, sur le site d'Attaque Québec, www.québec.attaque.org. Vous trouverez tous les détails de nos diverses campagnes et sur la façon de devenir membre d'Attaque Québec. Je vous invite d'ailleurs à vous rendre sur www.québec.attaque.org pour nous donner un coup de main. C'est très facile, c'est très simple. Vous pouvez donc faire un don en ligne. Vous pouvez aussi devenir membre d'Attaque Québec. Enfin, vous pouvez retrouver les enregistrements sur notre blog, Le Grain de Sable, en un seul mot, legraindesable.qc.org. Où vous trouverez aussi divers liens Internet de ce dont on vous a parlé. Nous avons une page Facebook. Cherchez-y Le Grain de Sable sur CKRL dans Facebook. Nous avons aussi un compte Twitter, @grain de sable en un seul mot. Grain de Sable QC en un seul mot. Réagissez-y, ça nous fait vraiment plaisir, grandement plaisir de vous lire. On a aussi mis un lien pour vous y rendre sur notre blog. Attaque Québec veut dire, je le répète, Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Je vous rappelle en terminant que nous recevons la semaine prochaine Bertrand Shepherd de l'IRIS qui va s'entretenir avec vous, qui va nous parler avec qui on va s'entretenir de l'hydroélectricité. Est-ce que c'est un bien public ou c'est une vache à lait, Bertrand Shepherd de l'IRIS. Je vous répète aussi qu'on se retrouve à compter de 13h pour une autre édition du Grain de Sable d'Attaque Québec à compter de samedi prochain. Attaque, c'est votre animatrice Michèle Monette qui vous souhaite de passer d'ici là une très belle semaine. Demeurez avec nous pour l'émission qui suit sur les ondes de CKRL, QC.ca, les JIC contre-attaque à compter de 14h. Donc bonne fin de journée malgré la pluie et bonne semaine à tout le monde.
possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 15 % à chaque fois que vous faites un achat au Poble d'Orsay, au 65 rue de Buade. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-pratique.
Le Ciné-Club Spirafim au Cégep Limoilou est de retour. Pour sa première soirée, voyez le long-métrage Manners of Dying, mettant en vedette Roy Dupuis. Le réalisateur Jeremy Peter Allen sera présent afin de partager son expérience de cinéaste. La séance sera précédée du court-métrage Tombé dans l'œil de Hugo Bellassen. Rendez-vous à la salle Sylvain Lelièvre du Cégep Limoilou le 28 octobre à 19h. Le Ciné-Club Spirafilm est présenté en collaboration avec le service d'animation socio-culturelle du Cégep Limoilou, le MCCCF, Télé-Québec, monlimoilou.com, le Bal du Lézard, chez Fratelli et CKRL. Spirafilm.com.
Notre histoire commence dès 7h alors que Madame Popote s'active au déjeuner qui seront servis jusqu'à la fermeture. Puis elle prépare un plein comptoir de plats maison avec des produits locaux, frais et santé. Quand vient le dîner, elle confectionne aussi des boîtes à lunch individuelles ou de groupe. Elle livre le tout gratuitement sans se laisser distraire par le loup. Pendant que les adultes profitent d'un tirage mensuel, les enfants raffolent du coin bonbon. Alex, la bouche pleine, déclare soudain
« Le salé, c'est pour se nourrir. Le sucré, c'est pour le plaisir. »
Papote, popote et potin. 1501 Chemin de la Canardière, 418-522-6667. Visitez notre page Facebook.
L'Atelier de la Mezzanine présente pour la troisième année son encan bénéfice d'œuvres d'art. Pour l'occasion, plus d'une trentaine d'œuvres d'artistes autodidactes ou professionnels seront mises aux enchères à un prix de départ dérisoire. Michel Marcoux agira à nouveau à titre de commissaire-priseur. L'encan bénéfice d'œuvres d'art le jeudi 14 novembre dès 17h au studio d'essai de la coopérative Méduse, 591 rue de Saint-Vallier-Est. Pour voir quelques-unes des œuvres qui seront mises aux enchères, consultez atelierdelamezzanine.com.
Bonjour, ici Amissa
et Steven,
élèves de Jeunes Musiciens du Monde. Le vendredi 15 novembre à l'Impérial de Québec,
c'est notre spectacle bénéfice annuel.
Cora Legan,
Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs,
Mathieu Lippé,
Papa Groove,
Mariem,
Webster,
Pépé et sa guitare,
Bougat,
Millimétrique,
la chorale Les Muses de Montréal du film Gabriel
et nous-mêmes serons sur scène pour une soirée haute en couleurs.
Une présentation
de la Capital Groupe Financier.
CKRL présente du fin fond de Limoilou, le geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher, et à la mise en onde,